Ici La Voix de la Russie, je suis avec vous, Oksana Bobrovitch, pour parler de l'apprentissage. Et qu'est-ce qui est plus efficace, l'exigence ou le plaisir? Qu'est-ce qui est plus efficace dans l'apprentissage scolaire, la rigueur ou la motivation et le plaisir? Cette question hante les esprits depuis toujours. La chaîne M6 en a même fait son fonds de commerce. Pupitre en bois, uniforme obligatoire, instituteurs sévères équipés d'une règle pour les élèves récalcitrants ont peuplé les petits écrans à l'occasion d'une émission récemment, retour au pensionnat à la campagne. 12 garçons et filles âgés de 12 ans à 15 ans ont tenté l'expérience de vie sans ordinateur, smartphone ni Facebook. Soumis aux règles strictes d'une éducation qui a disparu, ils ont essayé de décrocher le certificat d'études sur les bancs de l'école style années 50. Mais finalement, s'agit-il de la question de pure forme? L'exigence et la rigueur permettront-ils de remplir l'élève de connaissances contre son gré? Quelle attitude doit avoir le professeur face à l'élève pour obtenir les meilleurs résultats? Nous avons posé ces questions à Christine Caillon, professeure agrégée du russe au lycée Henri IV à Paris. Est-ce qu'il y a le style de comportement entre l'enseignant et l'élève dans l'école française? Est-ce qu'il y a une sorte de méthode pédagogique qui soit propre à l'enseignement français?
C'est difficile de dire qu'il y a une méthode qui pourrait être commune à chaque enseignant français. Je pense que ça dépend beaucoup du lieu où l'enseignant se trouve et du lieu où l'enseignant travaille et donc des élèves qu'il a en face de lui. Moi, j'ai connu deux types de situations. Une situation d'élèves de la Seine-Saint-Denis, un auditoire peu favorisé, mais quand même à l'époque très intéressé. Je pense que les choses ont évolué et que maintenant, je pense que ce serait plus difficile de travailler pour moi dans la Seine-Saint-Denis que ça ne l'a été. J'ai travaillé dans la Seine-Saint-Denis jusqu'en 96, pendant 20 ans, donc ça se passait tout à fait bien. Non, actuellement, j'ai devant moi des jeunes gens qui sont de milieux plutôt intellectuels, plutôt concernés par le travail intellectuel, par l'apprentissage. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un style. Je crois qu'il y a différents enseignants, hein, il y a différents types de comportements par rapport aux élèves. Moi, personnellement, j'ai une grande exigence par rapport à ce que j'attends des élèves qui apprennent. Pour être exigeant, il faut montrer l'exemple. Donc je pense que l'enseignant doit montrer l'exemple, doit être lui-même rigoureux, lui-même exigeant vis-à-vis de lui-même pour exiger du travail de ses élèves. Il y a aussi une question d'environnement des parents, c'est-à-dire que si les parents croient à l'école ou pas. Les parents qui ont mis leurs enfants dans cet établissement, ils croient à l'école, ils croient aussi à l'effort que supposent des études exigeantes, quoi.
Depuis les années 60, c'est-à-dire enfin, plus exactement 68, quand il y a eu un revirement dans le style, mais ça concerne plutôt l'école supérieure, bien entendu, parce qu'on me racontait que le professeur venait dans une sorte quasi uniforme, boutonné jusqu'au cou, et puis il disposait un cours et puis il repartait. Il n'avait aucun lien affectif avec ses élèves. Est-ce que vous pensez que cette période de changement vers le, entre guillemets, bien entendu, laxisme ou plus grande souplesse dans le comportement avec l'élève, c'est fini et on a compris qu'il vaut mieux être rigoureux et bien travailler plutôt qu'essayer de trouver l'amitié presque de l'enfant?
J'ai connu, en tant qu'élève, la période 68, moi j'étais élève à ce moment-là. C'est vrai que les rapports étaient très froids, étaient assez éloignés entre les enseignants et les élèves. Donc il y a eu une réaction cette période, mais ça paraît loin maintenant. Hein. On n'a pas du tout des rapports de copinage, entre guillemets, avec les élèves, pas du tout. Moi, en tout cas, des rapports d'exigence et des rapports surtout de transmission, quand même, là où je me trouve dans cet établissement, de transmission d'un savoir que les élèves ont envie de recevoir. Alors, je crois que c'est important aussi que ce savoir soit adapté aux élèves sans aucune démagogie. Moi, j'essaie de trouver un moyen terme entre cette exigence et que l'élève ait du plaisir à apprendre. Mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on doit se comporter de manière démagogique, c'est-à-dire se plier uniquement aux intérêts de l'élève. Il faut lui transmettre des intérêts.
Moi, j'ai connu l'école d'enseignement du français qui a, bon, j'ose dire, donné de bons résultats. Le français, je le maîtrise. Mais est-ce que dans l'apprentissage de langue en France, il y a des méthodes qui permettraient justement d'avoir ce plaisir à apprendre la langue sans oublier le côté quasi mécanique d'apprentissage de vocabulaire nécessaire?
Oui, bah, ce que j'appelle l'adaptation, c'est par exemple l'adaptation aux moyens technologiques qui nous sont offerts. Moi, j'essaye d'utiliser, par exemple, des vidéos. On essaie de développer l'oral par rapport à, jusqu'à présent, l'enseignement des langues en France était quand même très, très sanctionné par l'écrit. On avait beaucoup de travail écrit et assez peu de travail oral. Là, maintenant, on a des exercices de compréhension orale qui sont sanctionnés. Maintenant, on leur fait écouter des enregistrements, c'est très précis, hein, dont ils doivent ensuite rendre le contenu, mais en français. Bon, c'est pour tester uniquement la compréhension. On essaye d'utiliser tout ce qui nous est donné grâce à Internet, hein, sur les vidéos, des images à commenter, des petits parties, des petits films courts, des émissions aussi. Je crois que ça motive aussi beaucoup les élèves d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas on a encore des épreuves écrites aussi.
Ainsi, la réponse à la question posée au début n'est pas évidente. Qu'on passe du par cœur à la découverte, qu'on remplace l'effort individuel par le travail collectif, qu'on dévie des dictées d'une page à des textes de 5 lignes, qu'on annule les notes et instaure les observations pour ne pas stigmatiser les mauvais éléments, tout n'est pas juste la question de la forme d'enseignement. Une chose doit rester inchangée, le fond, la soif de la connaissance du disciple et le cœur généreux du maître. C'était Oksana Bobrovitch avec La Voix de la Russie.